Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Artry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La Reine étranglée » et le deuxième tome de la fresque historique « Les Rois maudits » de Maurice Druon, centré sur la France du début du XIVe siècle. Le roman reprend l'action au lendemain de la mort de Philippe le Bel et suit l'accession difficile de Louis X le Hutin, roi faible entouré de rivalités, d'ambitions et de calculs politiques. À travers la cour de France, les prélats, les barons et les conseillers, Druon met en scène un pouvoir fragilisé par les crises dynastiques, la faim, l'attente d'un nouveau pape et le poids des scandales. Ce volume prolonge l'enquête romanesque sur la chute des grands et sur l'enchaînement des fautes qui enferment les personnages dans une logique d'impasse. Il s'agit à la fois d'un roman historique et d'une réflexion sur la fragilité du pouvoir, la légitimité monarchique et la violence des alliances au sein d'un royaume en tension. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la succession de Philippe le Bel et l'affaiblissement du pouvoir royal. Le point de départ du roman est politique, avant tout la disparition de Philippe le Bel ouvre une période d'incertitude où le royaume perd la stabilité qu'imposait un souverain d'autorité. Louis X hérite d'un trône lourd, mais il n'en possède ni la fermeté ni l'envergure. Druon montre ainsi que la continuité dynastique ne garantit pas la continuité du pouvoir réel. Le roman insiste sur la différence entre la majesté de la fonction et la faiblesse de celui qui l'occupe. Cette tension donne sa structure au récit, car chaque décision devient vulnérable aux pressions de la cour, aux ambitions rivales et aux intérêts particuliers. Le lecteur comprend que la monarchie capétienne, malgré sa puissance apparente, repose sur un équilibre très fragile. L'intérêt du livre est de transformer une transition dynastique en crise systémique, où le défaut d'un roi suffit à désorganiser tout l'ordre politique. Deuxièmement, l'affaire de Marguerite de Bourgogne comme révélateur moral et politique. L'emprisonnement de Marguerite de Bourgogne pour adultère n'est pas seulement un épisode scandaleux, il agit comme un révélateur des hypocrisies de la cour et des usages politiques de la morale. Le roman montre que la faute privée d'une reine devient un enjeu public parce qu'elle touche à la succession, à l'honneur royal et à la crédibilité de la dynastie. Druon utilise cette affaire pour exposer la manière dont le pouvoir manipule les apparences et transforme un conflit conjugal en crise d'État. Le personnage de Marguerite n'est pas traité comme une simple figure de scandale, mais comme un point de fracture où se croisent justice, vengeance et stratégie. Cette dimension donne au roman une portée plus large que le seul drame intime, la condamnation morale, sert aussi des rapports de force. Le lecteur voit ainsi comment, dans un système monarchique, le corps et la réputation de la reine peuvent devenir des instruments de lutte politique. Troisièmement, une cour de France dominée par les intrigues, les clans et les calculs. Le roman tire une grande partie de sa force de la multiplicité des camps qui s'opposent autour du roi. Barons, prélats, banquiers et anciens ministres cherchent chacun à tirer profit de la vacance de l'autorité ou de la faiblesse du souverain. Druon met en scène un espace politique où rien n'est jamais purement désintéressé et où les alliances changent selon les circonstances. Cette logique de cour permet au récit d'éviter le simple portrait d'un règne. Elle révèle un système de dépendance, de rivalité et de loyauté provisoire. Le duel entre les hommes issus du gouvernement de Philippe IV et Charles de Valois, nouvel homme fort, structure en profondeur cette lutte pour l'influence. Ce qui importe ici, ce n'est pas seulement le conflit des personnalités, mais la mécanique collective qui transforme toute crise en opportunité. Le roman devient alors une étude du pouvoir comme théâtre d'ajustements permanents et d'intérêts incompatibles. Quatrièmement, famine, crise religieuse et sentiment d'impasse historique. Druon inscrit l'intrigue dans un contexte plus large que les seuls jeux de palais. La faim du peuple, l'attente d'un nouveau pape et la sensation d'un royaume sans issue donnent au roman une densité historique forte. Ces éléments ne servent pas seulement de décor, ils amplifient la pression pesant sur les décideurs et soulignent l'écart entre les préoccupations populaires et les manœuvres de cour. Le lecteur perçoit un monde où les institutions ne parviennent plus à absorber les crises, qu'elles soient spirituelles, sociales ou politiques. L'attente d'une solution extérieure, notamment religieuse, renforce l'idée que le pouvoir terrestre ne maîtrise plus la situation. Cette atmosphère de blocage conduit naturellement à des actes de plus en plus extrêmes. Le roman montre ainsi que la violence n'apparaît pas comme un accident, mais comme l'aboutissement d'un enchaînement d'impuissance. C'est l'une des dimensions les plus fortes du livre, faire sentir l'histoire comme une machine qui se referme sur ses acteurs. En dernier lieu, une fresque historique qui mêle rigueur documentaire et efficacité romanesque. La Reine étranglée appartient à un ensemble de romans historiques célèbres pour leur ambition narrative et leur ancrage dans la France médiévale. Maurice Druon y combine une base historique solide avec une écriture romanesque qui cherche moins la neutralité académique que l'intensité dramatique. Le livre repose sur une restitution des enjeux du début du XIVe siècle, mais il les organise en scènes lisibles, tendues, souvent dominées par le dialogue politique et la confrontation des volontés. Cette méthode explique en partie son succès. Le lecteur n'a pas affaire à une simple reconstitution, mais à une interprétation dramatique de l'histoire. Le roman reste accessible à des lecteurs non spécialistes tout en proposant suffisamment de complexité pour ceux qui s'intéressent aux mécanismes du pouvoir médiéval. Sa place dans la série est importante, car il approfondit les lignes de force posées dans le premier tome et installe les conséquences dynastiques à venir. C est un livre qui fait de l'histoire un récit de tensions humaines durables. En conclusion, La Reine étranglée s'adresse d'abord aux lecteurs de romans historiques, aux amateurs de Moyen-Âge français et à ceux qui s'intéressent aux mécanismes du pouvoir. Il convient aussi à un public qui recherche une lecture à la fois narrative et instructive, car le livre rend accessible des enjeux complexes sans dissocier intrigue et contexte. Son intérêt pratique est de donner des repères clairs sur la succession après Philippe le Bel, sur les rivalités de cour et sur les tensions qui annoncent une crise dynastique plus vaste. Son intérêt intellectuel est plus large, il montre comment la légitimité politique se fragilise lorsque les institutions, les ambitions personnelles et les scandales privés se contaminent mutuellement. Ce tome se distingue de beaucoup d'autres romans historiques par la précision de sa vision politique et par la continuité qu'il assure dans une grande fresque romanesque. Il ne cherche pas seulement à faire revivre une époque, mais à en faire comprendre la logique interne. C'est cette combinaison entre tension dramatique, densité historique et lecture du pouvoir qui le rend durablement marquant. Si vous souhaitez soutenir Maurice Druon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.